France Inter, 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, c'est le tout premier procès du genre. La mère d'un djihadiste français comparaît aujourd'hui pour financement du terrorisme. Elle avait envoyé de l'argent à son fils à l'étranger. Vous entendrez son témoignage dans quelques instants. Une réforme et un enterrement aujourd'hui pour tous les travailleurs indépendants, artisans et commerçants. Le gouvernement va annoncer la fin du RSI, leur régime social tant décrié. Et dans une semaine, le premier vrai test social du quinquennat, avec les premiers cortèges contre la réforme du code du travail, s'y ajoute la fronde qui monte contre la suppression des emplois aidés. Le gouvernement va-t-il lâcher du lest ? On en parle dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Oui, le porte-parole du gouvernement, j'ai nommé Christophe Castaner, qui répondra à toutes vos questions à 8h40. Intervenez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la Corée du Nord au cœur des discussions à l'ONU. Les États-Unis veulent durcir les sanctions économiques. En Syrie, une bataille peut-être décisive contre le groupe État islamique. Un employeur peut-il licencier un salarié qui envoie des mails privés depuis sa messagerie professionnelle? La réponse aujourd'hui. Et à la fin de ce journal, le rugby français qui ne veut plus voir de chaos sur les terrains. A-t-elle aidé son fils ou alors financé un terroriste, à moins que ce ne soit les deux à la fois? C'est une audience inédite et sans doute douloureuse qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal de Paris. Celui d'une mère jugée pour financement du terrorisme. Elle avait envoyé de l'argent à son fils, parti faire le djihad. Il est mort en Syrie l'année dernière. La mère affirme qu'elle ignorait tout de sa situation. Charlotte Piret.
L'histoire de Nathalie est de celle qu'on voit si souvent dans les dossiers de terrorisme. Un fils aîné, délinquant, qui multiplie les séjours en prison et s'y radicalise. Nathalie décide alors de l'envoyer en Algérie chez son père, lui paye un billet d'avion pour Alger. Le jeune abbesse y reste quelques mois avant de voyager. Envie de soleil, dit-il. Les dernières photos qu'il lui envoie dévoilent une plage paradisiaque de Malaisie. C'est d'ailleurs depuis Kuala Lumpur qu'il lui réclame de l'argent. Il s'est fait agresser, explique-t-il, est hospitalisé. En tout, plusieurs milliers d'euros seront envoyés à son nom. Ces sommes sont aujourd'hui qualifiées de financement de terrorisme par le parquet de Paris. Carabès a ensuite rejoint la Syrie et les zones de combat. Après près d'un an sans nouvelles, sa mère Nathalie reçoit un appel anonyme. Son fils est mort en kamikaze. Aujourd'hui, Nathalie dit avoir l'impression d'un acharnement. Elle qui ne cautionne aucunement cet ex-djihadiste. Son procès pose surtout la question d'un changement de stratégie du parquet antiterroriste. S'il décide de poursuivre les familles dans le même cas, la 16e chambre pourrait être amenée à en juger beaucoup d'autres.
Et aujourd'hui, cette femme, Nathalie Haddadi, risque donc jusqu'à 10 ans de prison. À quelques heures de ce procès, elle était ce matin l'invitée du 5-7 de France Inter. Écoutez son témoignage.
Je suis consciente que j'ai fait des fautes, mais c'est par peur et par crainte. Vous êtes tétanisée, vous êtes seule. Je suis seule à élever mes trois enfants, j'étais seule à les élever tous les trois. Moi, le jour où on m'a dit en 2014 « débrouillez-vous », c'est resté dans ma tête « débrouillez-vous ». Je ne savais pas quoi faire. Et sachant qu'il est parti d'Algérie, vous voyez, donc je devais le déclarer aux autorités algériennes, aux autorités françaises, qu'est-ce que je devais faire? J'étais tétanisée. Les parents de djihadistes sont condamnés. Moi, j'ai eu peur de « c'est la sœur d'eux, c'est le frère d'eux, c'est la mère d'eux ». Voilà.
Nathalie Haddadi au micro France Inter d'Hélène Roussel. Interview à retrouver dans son intégralité sur franceinter.fr.
8h04, près de 3 millions de Français directement concernés. Le gouvernement dévoile aujourd'hui sa réforme en faveur des travailleurs indépendants.
Ils sont artisans, commerçants, professions libérales ou micro-entrepreneurs et depuis des années, la plupart pestaient contre leur régime social, le RSI, jugé trop complexe et trop coûteux. Le gouvernement annoncera aujourd'hui sa suppression. Les travailleurs indépendants rejoindront le régime général de la Sécu, mais beaucoup d'entre eux en attendaient encore plus, et notamment un allègement des cotisations. Hélène Filly est allée à la rencontre des premiers concernés dans une agence événementielle à Paris.
Olivier Dussos gère aujourd'hui 6 salariés. Il est passé indépendant il y a 10 ans.
La petite boîte telle qu'on la connaît, là vous avez le poste administratif.
Ce qu'il souhaite, se sentir écouté.
On a besoin de quelque chose qui soit proche de la réalité, que ça soit plus le RSI, que ça soit au régime général, à un guichet spécial, peu importe, mais quelque chose qui soit fluide et facile d'utilisation et surtout à notre écoute.
Ici, vous avez la salle de production. Alors, Priscilla, qui, elle, a été aussi au RSI, hein, n'est-ce pas ?
Auto-entrepreneuse puis salariée, Priscilla milite pour un interlocuteur unique.
Déjà, c'est compliqué de faire toute la paperasse pour pouvoir avoir accès au RSI. Pour l'annuler, c'est pareil. C'est sûr que si on est tous sur le même régime et la même longueur d'onde, c'est plus facile quand même.
Mais la priorité pour le gérant, c'est un nouveau calcul des cotisations.
Si on prend une base 100 l'année l'année suivante, on peut gagner 80 comme on peut gagner 120. Le problème, c'est que, eh bien, au RSI, on va toujours considérer que vous avez gagné 100. C'est impossible de recalculer, alors que dans d'autres administrations, ça existe.
Olivier Dussos ne souhaite qu'une chose, que la situation de son entreprise, au jour le jour, soit prise en compte.
Les travailleurs indépendants aujourd'hui, donc, après les salariés la semaine dernière, visiblement, l'exécutif veut maintenir le train des réformes. Car à l'Élysée, Cyril Grazzani, on en est persuadé, la bataille de l'opinion se joue en partie dans les premiers mois du quinquennat.
Emmanuel Macron a fait un pari devant quelques proches. D'ici quelques jours, leur a-t-il dit, une majorité de Français sera pour la réforme du marché du travail. Osé quand on sait qu'au mois d'août, plus de 60% se disaient contre cette réforme phare de la rentrée. Mais pour y parvenir, le président a martelé à ses équipes, il faut répéter, répéter. La communication, c'est la multiplication, réagit un proche du président. Un visiteur du soir de l'Élysée, lui, va plus loin. Il a conseillé au chef de l'État de parler aux Français les yeux dans les yeux, considérant que l'interview au Point la semaine dernière n'était qu'un coup d'épée dans l'eau, car il a voulu, dit-il, prendre trop de hauteur et ne s'est pas adressé au plus grand nombre. Emmanuel Macron n'envisage rien de plus pour l'instant, il pense pouvoir retourner l'opinion, mais il aura un œil très attentif sur la première grande manifestation contre ces ordonnances, celle de la CGT mardi prochain, premier test grandeur nature pour le chef de l'État, qui pourra commencer à jauger l'adhésion ou non des Français à ces réformes.
Oui, la CGT dans la rue dès la semaine prochaine, mais pas force ouvrière. La position prise par le syndicat provoque d'ailleurs des frictions en interne. Plusieurs fédérations ont fait savoir qu'elles défileraient bien mardi prochain. Et hier, la direction collégiale du syndicat a jugé certaines dispositions de la loi inacceptables, semblant prendre le contre-pied de Jean-Claude Mailly. Quant au PS, il s'opposera à la loi, mais sur la pointe des pieds, le parti a finalement tranché hier soir, après plusieurs jours de polyphonie. Il soutiendra bien les manifestations, mais sans appeler formellement à manifester. C'est un peu la version socialiste du « en même temps, cher au président de la République ».
Il est 8h07, voilà une décision qui devrait vous intéresser s'il vous arrive d'utiliser votre messagerie professionnelle pour envoyer un mail personnel.
Oui, autant dire que ça concerne à peu près tout le monde. Votre employeur a-t-il le droit de fouiller dans vos mails? Et si oui, de vous licencier si vous les utilisez à titre privé? La mésaventure était arrivée à un ingénieur roumain depuis 10 ans. Il se bat pour dénoncer une atteinte, selon lui, à sa vie privée. Et aujourd'hui, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui s'apprête à trancher. La décision s'appliquera à ses 47 pays membres et donc à la France. Ania Vogel.
Bogdan Barbulescu travaillait depuis 3 ans comme ingénieur en charge des ventes dans une société privée lorsqu'il fut licencié pour avoir utilisé à des fins personnelles le compte Yahoo Messenger réservé en principe aux clients. Comme preuve, son employeur lui présente un relevé de communication et les transcriptions de messages échangés avec son frère et sa fiancée. L'homme conteste, dénonce l'espionnage des communications et finit par saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Dans un premier temps, celle-ci juge la surveillance raisonnable, seul moyen d'établir l'infraction disciplinaire, et le déboute. Mais il finit par obtenir un nouvel examen de l'affaire. Entre-temps, les juges de Strasbourg ont entendu les arguments du gouvernement français et de la CNIL sur la nécessité d'encadrer la surveillance et d'en informer les salariés et de la Confédération européenne des syndicats qui juge le licenciement disproportionné. L'arrêt fera jurisprudence. Strasbourg, Ania Vogel, France Inter.
Les écoles et les administrations fermées, des milliers de personnes évacuées et des files d'attente devant tous les supermarchés. La Guadeloupe se barricade à l'approche de l'ouragan Irma. Il s'est encore renforcé, passant en catégorie 4 sur 5 avec des vents à 215 km/h. L'ouragan est attendu sur place la nuit prochaine et pourrait menacer également Haïti, Porto Rico et la Floride. Parole à la diplomatie dans le dossier nord-coréen. Après les coups de menton et les menaces de ces dernières heures, c'est désormais à l'ONU et en coulisses que se joue la réplique au dernier essai nucléaire de Pyongyang. Avec un compte à rebours, dans 6 jours, lundi prochain, le Conseil de sécurité doit se prononcer sur un nouveau train de sanctions contre le régime. Ce sera le 8e. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
Pour l'instant, les précédents n'ont pas réussi ni à déstabiliser l'économie nord-coréenne, ni à faire vaciller son dictateur.
Alors oui, le régime nord-coréen multiplie toujours les provocations et masse à la frontière de quoi faire d'énormes dégâts chez ses voisins. Il affiche aussi l'abstraction faite des plus vulnérables et des campagnes isolées. Une relative bonne santé économique. En 2016, la croissance a frôlé les 4% du jamais vu en 20 ans. À Pyongyang, les nouvelles orientations économiques, teintées d'un peu de libéralisme, ont vu pousser les gratte-ciels et apparaître les embouteillages, de nouvelles couches sociales et quelques initiatives privées. L'activité agricole, le secteur minier, l'industrie lourde et les manufactures ont fortement progressé. et le commerce extérieur en quasi-totalité avec la Chine a connu un bond de près de 5%. La Chine, c'est la clé de voûte de la pression internationale. Elle avait voté la dernière résolution consistant à priver Pyongyang d'un tiers de ses recettes à l'exportation. Il reste à la convaincre de continuer sur ce chemin-là et de jouer sans ambiguïté l'unité du Conseil de sécurité de l'ONU.
Merci Luc Lemonnier. La Chine, effectivement, que les États-Unis veulent convaincre de lâcher son allié. Elle est accusée de ne pas avoir appliqué à la lettre les sanctions précédentes. La crise doit être résolue de manière pacifique, a réagi Pékin, qui plaide pour une dénucléarisation du pays. Ce n'est pas encore la bataille finale, mais on s'en approche. En Syrie, le groupe État islamique connaît un nouveau revers dans l'un de ses derniers fiefs, tout près de la frontière avec l'Irak. Depuis 3 ans, les djihadistes faisaient le siège de la ville de Deir ez-Zor, essentiellement pour le contrôle des puits de pétrole. Mais l'armée de Bachar el-Assad serait sur le point de reprendre la ville. Omar Ouaman.
C'est une bataille qui se déroule aux confins de la Syrie, dans une région connue pour ses champs pétroliers à perte de vue. Près de 100 000 civils vivent dans l'enclave contrôlée par le régime de Damas et assiégée depuis plus de 3 ans par les djihadistes. La zone n'est ravitaillée en produits alimentaires et médicaments que par avion. C'est ce siège que l'armée syrienne tente de briser avec le soutien aérien des avions russes qui bombardent sans relâche les positions du groupe État islamique. Après une avancée fulgurante et de très violents combats, les forces loyalistes sont parvenues à entrer dans la périphérie de Deir ez-Zor, ce qui a provoqué des scènes de liesse populaire à l'intérieur de la partie assiégée. Pour le régime de Bachar el-Assad, cette bataille revêt un enjeu crucial. La victoire lui permettrait d'asseoir son pouvoir loin de la capitale Damas et d'espérer reprendre bientôt le contrôle de sa frontière avec l'Irak. Beyrouth, Omar Ouaman, France Inter.
La Syrie en guerre et pourtant ce soir c'est un match de foot qui devrait attirer les foules devant les écrans géants ou dans les cafés, là en tout cas où les combats ont cessé. L'équipe nationale syrienne est à un match d'une qualification pour la Coupe du Monde de foot. Ce serait une première pour elle. Le hasard veut que la rencontre se joue à Téhéran face à l'Iran, l'allié indéfectible du régime, et que la Coupe du Monde, elle, soit organisée par la Russie, autre allié historique de Damas.
Inter 8h12 marque des plaquages trop violents, des joueurs KO. Le rugby français veut se protéger.
Et il y a urgence car l'infirmerie se remplit à vitesse grand V. Le nombre de blessures explose dans le rugby professionnel. Plus 1 000 la saison dernière. Parmi elles, ce sont les commotions cérébrales qui inquiètent le plus. D'où l'initiative lancée aujourd'hui par la Ligue nationale de rugby. Une douzaine de personnalités vont plancher sur les mesures à mettre en œuvre. Jérôme Val.
Quand il regarde un match, Bernard Dufour a peur. Le président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby parle d'urgence face à la violence des chocs répétés.
La plus grosse évolution, c'est sur le bruit. C'est-à-dire qu'avant, de temps en temps, on entendait un impact. Là, c'est à chaque plaquage qu'on entend un impact. De temps en temps, on se dit, bon, mais pourvu que ce joueur se relève.
Le nombre de KO a bondi de 35% la saison dernière en top 14, avec des joueurs surpuissants, difficiles d'éviter les chocs et donc les blessures, reconnaît le trois-quarts centre de La Rochelle, Pierre Aguillon.
Il faut savoir ce qu'on veut. Le grand public veut de plus en plus de spectacles, veut que ça aille de plus en plus vite. Donc après, il ne faut pas se plaindre que ça tape de plus en plus fort. Quand tu as des mecs de 120 kilos qui te courent 100 mètres en 11 secondes, ben, quand tu les prends dans la tronche, ça fait mal.
La Ligue a renforcé les procédures pour mieux détecter les KO pendant un match, mais il faut que tout le monde joue le jeu pour le manager de Clermont, Franck Azéma.
Bien se préparer, les protéger au mieux et avoir des gestes de plus en plus propres sur le terrain, à la fois par le travail qu'il fait en club et aussi par l'arbitrage sur le fait de bien maîtriser ses comportements sur le plaquage.
Ce Grenelle aura-t-il les moyens d'enrayer une dynamique folle? La majorité des personnes que nous avons interrogées n'en sont pas convaincues.
Oui, d'autant moins convaincues que la fédération, elle, d'après le journal L'Équipe, a décidé de n'envoyer aucun représentant à cette réunion. Quand une bataille d'éditeurs se termine au tribunal, ce n'est pas tous les jours que la justice doit trancher dans une affaire de plagiat présumé au sujet de la couverture d'un livre et pas de son contenu. Le livre en question, c'est un roman de Fred Vargas sorti il y a 2 ans, publié chez Flammarion, chez qui elle venait de signer. Mais l'ancienne éditrice de La Romancière, une petite maison d'édition indépendante, affirme qu'en plus de s'être fait piquer son auteur, elle s'est aussi fait dérober la couverture. Ilana Moriousef a assisté à l'audience.
Comparé le 14e roman de Fred Vargas, Temps glaciaire, aux éditions Flammarion, Viviane Ami est stupéfaite. La maquette, se dit-elle, ressemble furieusement à celle de sa collection policière Chemin nocturne. Elle l'a créée en 1994, justement pour y éditer Fred Vargas. L'avocat de Flammarion, maître Laurent Merlet, rejette l'accusation de contrefaçon.
La couverture de Flammarion ne ressemble en rien à celle des éditions Viviane Ami. Les éditions Flammarion se sont inspirées de la couverture d'un éditeur italien qui s'appelle Adelphi, auprès duquel elles ont acquis les droits de reproduction de cette maquette qui est aujourd'hui critiquée. Le fond noir propre au roman policier, une photographie en noir et blanc qui est propre aussi au genre du roman policier. Donc Madame Amy essaie de protéger un genre et un genre ne se protège pas.
Pour l'avocat de Viviane Amy, au contraire, la contrefaçon ne fait pas de doute. Devant le tribunal, il énumère le format semi-poche, l'encadrement de couleur blanche, le nom de l'auteur et le titre en lettres blanches capitales et la photo noir et blanc, maître Alexandre Rudoni.
Il est reproché à Flammarion, non pas d'avoir utilisé un code de couleur relativement usuel dans le secteur du roman policier, mais d'avoir reproduit la combinaison des caractéristiques de la collection Chemin Nocturne.
Depuis, Flammarion a changé de maquette, délibéré le 5 octobre.
Reportage Ilana Mor-Youssef. Enfin, le cinéma français retrouve des couleurs à l'étranger. 40 millions d'entrées depuis le début de l'année, c'est plus que pour toute l'année dernière. Il faut y voir notamment un effet Valérian, la superproduction de Luc Besson, qui cartonne en Chine 11 millions d'entrées 2 semaines seulement après sa sortie.